Deuxième partie. Chapitre 7. La vie chez les mammouths. Nam avait bien gardé le feu. Il brûlait clair et pur dans sa cage lorsque Nao le retrouva. Et quoique son harassement fût extrême, que la blessure mordît sa chair comme un loup, que sa tête bourdonna de fièvre, le fils du léopard eut un grand moment de bonheur. Dans sa large poitrine battait toute l'espérance humaine, plus belle de ce que, sans l'ignorer, il ne songeait pas à la mort. La jeunesse palpitait en lui, et pour sa courte prévoyance, c'était l'éternité. Il vit le marécage au printemps, lorsque les roseaux dardent tous ensemble leurs flèches tendres, lorsque les peupliers, les aunes et les saules revêtent leurs fourrures vertes et blanches, lorsque les sarcelles, les hérons, les ramiers, les mésanges s'interpellent. Lorsque la pluie tombe si allègre que c'est comme si la vie même tombait sur la terre. Et devant les eaux et sur les herbes parmi les arbres, la face de la postérité était la face de Gamla. Toute la joie des hommes était le corps flexible, les bras fins et le ventre rond de la nièce de Faoum. Quand Nao eut rêvé devant le feu, il cueillit des racines et des plantes tendres pour en faire hommage au chef des mammouths, car il concevait que l'alliance, pour être durable, devait chaque jour être renouvelée. Alors seulement, Nam prenant la garde, il alla choisir une retraite au centre du grand troupeau et s'y étendit. « Si les mammouths quittent le pâturage, fit Nam, je réveillerai le fils du léopard. »« Le pâturage est abondant, répondit Nao. Les mammouths y paîtront jusqu'au soir. » Il tomba dans un sommeil profond comme la mort. Quand il s'éveilla, le soleil s'inclinait sur la savane. Des nuages couleur de schiste s'amoncelaient, et doucement ils ensevelissaient le disque jaune, pareil à une vaste fleur de nénuphar. Nao se sentit les membres brisés aux jointures. La fièvre courait au travers de son crâne et de son échine. Mais le bourdonnement s'affaiblissait dans ses oreilles, et la douleur de son épaule reculait. Il se leva, regarda d'abord le feu, puis demanda au veilleur « Les Xams sont-ils revenus ?»« Ils ne se sont pas éloignés encore. Ils attendent sur le bord du fleuve, devant l'île aux hauts peupliers. »« C'est bien, » répondit le fils du léopard. « Ils n'auront pas de feu pendant les nuits humides. Ils perdront courage et retourneront vers leur horde. Que Nam dorme à son tour. » Tandis que Nam s'étendait sur les feuilles et le lichen, Nao examina Gao, qui s'agitait dans un rêve. Le jeune homme était faible, la peau ardente. Son souffle passait avec rudesse, mais le sang ne coulait plus de sa poitrine. Le chef, songeant qu'il ne rentrerait pas encore dans les racines de la terre profonde, se pencha sur le feu, avec un grand désir de le voir croître dans un brasier de branches sèches. Mais il repoussa ce désir vers les journées suivantes, car il fallait d'abord obtenir que le chef des mammouths permît aux Oulamres de passer la nuit dans son camp. Nao le chercha du regard. Il l'aperçut, solitaire, selon son habitude, pour mieux veiller sur le troupeau et mieux scruter l'étendue. Il paissait des arbrisseaux dont la tête dépassait à peine du sol. Le fils du léopard cueillit des racines de fougères comestibles. Il trouva aussi des fèves des marais, puis il se dirigea vers le grand mammouth. La bête, à son approche, cessa de ronger les arbrisseaux tendres. Elle agita doucement sa trompe velue. Même, elle fit quelques pas vers Nao. En lui voyant les mains chargées de nourriture, elle montra du contentement, et elle commençait aussi à éprouver de la tendresse pour l'homme. Le nomade tendit la provende qu'il tenait contre sa poitrine et murmura. « Chef des mammouths, les Xams n'ont pas encore quitté le fleuve. Les Oulamres sont plus forts que les Xams, mais ils ne sont que trois, tandis qu'eux sont plus de trois fois deux mains. Ils nous tueront si nous nous éloignons des mammouths. » Le mammouth, rassasié par une journée de pâture, mangeait lentement les racines et les fèves. Quand il eut fini, il regarda le soleil couchant, puis il se coucha sur le sol, tandis que sa trompe s'enroulait à demi autour du torse de l'homme. Nao en conclut que l'alliance était complète, qu'il pourrait attendre sa guérison et celle de Gao dans le camp des mammouths, à l'abri des Xams, du lion, du tigre et de l'ours gris. Peut-être même lui serait-il accordé d'allumer le feu dévorant et de goûter la douceur des racines, des châtaignes et des viandes rôties. Or le soleil s'ensanglanta dans le vaste Occident, puis il alluma les nuages magnifiques. Ce fut un soir rouge comme la fleur du basilier, jaune comme une prairie de renoncules, lilas comme l'éveilleuse sur une rive d'automne, et ses feux fouillaient la profondeur du fleuve. Ce fut un des beaux soirs de la terre mortelle. Il ne creusa pas des contrées incommensurables comme les crépuscules d'été, mais il y eut des lacs, des îles et des cavernes pétries de la lueur des magnolias, des glaïeuls et des églantines, dont l'éclat touchait l'âme sauvage de Nao. Il se demanda qui donc allumait ces étendues innombrables, quels hommes et quelles bêtes vivaient derrière la montagne du ciel. Il y avait 3 jours que Nao, Gao et Nam vivaient dans le camp des mammouths. L'examen vindicatif continuait à rôder au bord du grand fleuve, dans l'espoir de capturer et de dévorer les hommes qui avaient déjoué leurs ruses, défié leurs forces et pris leur feu. Nao ne les redoutait pas. Son alliance avec les mammouths était devenue parfaite. Chaque matin, sa force était plus sûre. Son crâne ne bourdonnait plus. La blessure de son épaule, peu profonde, se fermait avec rapidité. Toute fièvre avait cessé. Gao s'y guérissait. Souvent, les 3 oulamres montaient sur un tertre, défiaient les adversaires. Nao criait. « Pourquoi rôdez-vous autour des mammouths et des oulamres? Vous êtes devant les mammouths comme des chacals devant le grand ours. Ni la massue ni la hache d'aucun xam ne peut résister à la massue et à la hache de Nao. Si vous ne partez pas vers vos terres de chasse, nous vous dresserons des pièges et nous vous tuerons. » Nam et Gao poussaient leurs cris de guerre en brandissant leurs sagaies. Mais l'exam rôdait dans la brousse, parmi les roseaux, sur la savane ou sous les érables, les sycomores, les frênes et les peupliers. On apercevait brusquement un torse velu, une tête aux grands cheveux, ou bien des silhouettes confuses se glissaient dans les pénombres. Et, quoiqu'ils fussent sans crainte, les oulamres détestaient cette présence mauvaise. Elle les empêchait de s'éloigner pour reconnaître le pays. Elle menaçait l'avenir, car il faudrait bientôt quitter les mammouths pour retourner vers le nord. Le fils du léopard songeait au moyen d'éloigner l'ennemi de sa piste. Il continuait à rendre hommage au chef des mammouths. 3 fois par jour, il rassemblait pour lui des nourritures tendres, et il passait de grands moments assis auprès de lui, à tenter de comprendre son langage et de lui faire entendre le sien. Le mammouth écoutait volontiers la parole humaine. Il secouait la tête et semblait pensif. Quelquefois, une lueur singulière étincelait dans son œil brun, ou bien il plissait la paupière comme s'il riait. Alors Nao songeait. Le grand mammouth comprend Nao, mais Nao ne le comprend pas encore. Cependant, ils échangeaient des gestes dont le sens n'était pas douteux et qui se rapportaient à la nourriture. Quand le nomade criait « Voici !», le mammouth approchait tout de suite, même si Nao était caché, car il savait qu'il y avait des racines, des tiges fraîches ou des fruits. Peu à peu, ils apprirent à s'appeler, même sans motif. Le mammouth poussait un bari adouci. Nao articulait 1 ou 2 syllabes. Ils étaient contents d'être à côté l'un de l'autre. L'homme s'asseyait sur la terre, le mammouth rôdait autour de lui, et quelquefois par jeu, il le soulevait dans sa trompe enroulée, délicatement. Pour arriver à son but, Nao avait ordonné à ses guerriers de rendre hommage à 2 autres mammouths, qui étaient chefs après le colosse. Comme ils étaient maintenant familiers avec les nomades, ils avaient donné l'affection qui leur était demandée. Ensuite, Nao avait appris aux jeunes hommes comment il fallait habituer les géants à leur voix, si bien que, le 5e jour, les mammouths accouraient aux cris de Nam et de Gao. Les oulamres eurent un grand bonheur. Un soir, avant la fin du crépuscule, Nao ayant accumulé des branches et des herbes sèches, osa y mettre le feu. L'air était frais, assez sec, la brise très lente. Et la flamme avait cru, d'abord noire de fumée, puis pure, grondante et couleur d'aurore. De toutes parts, les mammouths accoururent. On voyait leurs grosses têtes s'avancer et leurs yeux luire d'inquiétude. Les nerveux barrissaient, car ils connaissaient le feu. Ils l'avaient rencontré sur la savane et dans la forêt, quand la foudre s'était abattue. Il les avait poursuivis avec des craquements épouvantables. Son haleine leur cuisait la chair, ses dents perçaient leur peau invulnérable. Les vieux se souvenaient de compagnons saisis par cette chose terrible et qui n'étaient plus revenus. Aussi considérait-il avec crainte et menace cette flamme autour de laquelle se tenaient les petites bêtes verticales. Nao, sentant leur déplaisir, se rendit auprès du grand mammouth et lui dit « Le feu des oulambres ne peut pas fuir, il ne peut pas croître à travers les plantes, il ne peut pas se jeter sur les mammouths. Nao l'a emprisonné dans un sol où il ne trouverait aucune nourriture. » Le colosse, emmené à 10 pas de la flamme, la contemplait et, plus curieux que ses semblables, pénétré aussi d'une confiance obscure en voyant ses faibles amis si tranquilles, il se rassura. Comme son agitation ou son calme réglait depuis de longues années l'agitation et le calme du troupeau, tous, peu à peu, ne redoutèrent plus le feu immobile des oulambres, comme ils redoutaient le feu formidable qui galope sur la steppe. Ainsi Nao put nourrir la flamme et refouler les ténèbres. Ce soir-là, il goûta la viande, les racines, les champignons rôtis, et il s'en délecta. Le 6e jour, la présence d'Exam devint plus insupportable. Nao avait maintenant repris toute sa force. L'inaction lui pesait. L'étendue l'appelait vers le nord. Ayant vu plusieurs torses velus apparaître parmi des platanes, il fut saisi de colère. Il s'exclama « L'Exam ne se nourriront pas de la chair de Nao, de Gao et de Nam !» Puis il fit venir ses compagnons et leur dit « Vous appellerez les mammouths avec lesquels vous avez fait alliance. » Et moi, je me ferai suivre du grand chef. Ainsi, nous pourrons combattre les dévoreurs d'hommes. » Ayant caché le feu en lieu sûr, les oulambres se mirent en route. À mesure qu'ils s'éloignaient du camp, ils offraient des aliments aux mammouths, et Nao, par intervalle, parlait d'une voix douce. Cependant, à une certaine distance, les colosses hésitèrent. Le sentiment de leur responsabilité envers le troupeau s'accroissait à chaque enjambée. Ils s'arrêtaient, ils tournaient la tête vers l'occident. Puis ils cessèrent d'avancer. Et lorsque Nao fit entendre le cri d'appel, le chef des mammouths y riposta en appelant à son tour. Le fils du léopard revint sur ses pas. Il passa la main sur la trompe de son allié, disant « Les Xams sont cachés parmi les arbres. Si les mammouths nous aidaient à les combattre, ils n'oseraient plus rôder autour du camp. » Le chef des mammouths demeurait impassible. Il ne cessait de considérer à l'arrière le troupeau lointain dont il menait les destinées. Nao, sachant que l'Exam était caché à quelques portées de flèche, ne put se résoudre à abandonner l'attaque. Il se glissa, suivi de Nam et de Gao, à travers les végétaux. Des javelots sifflèrent. Plusieurs Xams se dressèrent sur la broussaille pour mieux viser l'ennemi. Et Nao poussa un long, un strident cri d'appel. Alors le chef des mammouths parut comprendre. Il lança dans l'espace le baril formidable qui rassemblait le troupeau. Il fonça, suivi des 2 autres mâles, sur les dévoreurs d'hommes. Nao brandissant sa massue, Namega tenant la hache dans leur main gauche, un dard de la main droite, s'élançait en clamant belliqueusement. Les Xams épouvantés se dispersèrent à travers la brousse. Mais la fureur avait saisi les mammouths. Ils chargeaient les fugitifs comme ils auraient chargé des rhinocéros, tandis que de la rive du grand fleuve, on voyait le troupeau accourir par masses fauves. Tout craquait sur le passage des bêtes formidables. Les animaux cachés, loups, chacals, chevreuils, cerfs, élafes, chevaux, saïgas, sangliers, se levaient à travers l'horizon et fuyaient comme devant la crue d'un fleuve. Le grand mammouth atteignit le premier un fugitif. Le Xam se jeta sur le sol en hurlant de terreur, mais la trompe musculeuse se replia pour le saisir. Elle lança l'homme verticalement à 10 coudées de terre, et lorsqu'il retomba, une des vastes pattes l'écrasa comme un insecte. Ensuite, un autre dévoreur d'hommes expira sous les défenses du 2e mâle. Puis l'on vit un guerrier, tout jeune encore, se tordre, hurlant et sanglotant, dans une étreinte mortelle. Le troupeau arrivait. Son flux monta sur la broussaille. Un mascaret de muscles engloutit la plaine. La terre palpita comme une poitrine. Tout l'Exam qui se trouvait sur le passage, depuis le grand fleuve jusqu'au tertre et jusqu'au bois de frêne, furent réduits en boue sanglante. Alors seulement la fureur des mammouths s'apaisa. Le chef, arrêté au pied d'un mamelon, donna le signal de la paix. Tous s'arrêtèrent, les yeux encore étincelants, les flancs secoués de frissons. L'exam échappé au désastre fuyait éperdument vers le midi. Il n'y avait plus à craindre leurs embûches. Ils renonçaient pour toujours à traquer les oulams et à les dévorer. Ils portaient à leur horde l'étonnante nouvelle de l'alliance des hommes du Nord et des mammouths, dont la légende allait se perpétuer à travers les générations innombrables. Pendant 10 jours, les mammouths descendirent vers les terres basses, enlongeant la rive du fleuve. Leur vie était belle. Parfaitement adaptée à leur pâturage, la force emplissait leurs flancs lourds. Une nourriture abondante s'offrait à tous les détours du fleuve, dans les limons palustres, sur l'humus des plaines, parmi les vieilles futaies vénérables. Aucune bête ne troublait leur voie. Souverains de l'étendue, maîtres de leurs exodes et de leur repos, les ancêtres avaient assuré leur victoire, parfait leur instinct, assoupli leurs coutumes sociales, réglé leur marche, leur tactique, leur campement et leur hiérarchie, pourvus à la défense des faibles et à l'entente des puissants. La structure de leur cerveau était délicate, leur sens plein de subtilité. Ils avaient une vision précise et non la prunelle vague des chevaux ou des urus, l'odorat fin, le tact sûr, l'ouïe vive. Énormes mais flexibles, pesants mais agiles, ils exploraient les eaux et la terre, palpaient les obstacles, flairaient, cueillaient, déracinaient, pétrissaient avec cette trompe aux fines nervures qui s'enroulait comme un serpent, étreignaient comme un ours, travaillaient comme une main d'homme. Leur défense fouissait le sol. D'un coup de leurs pieds circulaires, ils écrasaient le lion. Rien ne limitait la victoire de leur race. Le temps leur appartenait comme l'étendue. Qui aurait pu troubler leur repos? Qui les empêcherait de se perpétuer par des générations aussi nombreuses que celles dont ils étaient la descendance? Ainsi rêvait Nao, tandis qu'il accompagnait le peuple des colosses. Il écoutait avec bonheur la terre craquer à leur marche. Il considérait orgueilleusement leur longue file pacifique, échelonnée devant le fleuve ou sous les ramures d'automne. Toutes les bêtes s'écartaient à leur approche, et les oiseaux, pour les voir, descendaient du ciel ou s'élevaient parmi les roseaux. Ce furent des jours si doux de sécurité et d'abondance que, sans le souvenir de Gamla, Nao n'en aurait pas désiré la fin. Car maintenant qu'il connaissait les mammouths, il les trouvait moins durs, moins incertains, plus équitables que les hommes. Leur chef n'était pas, tel Faoum, redoutable à ses amis même. Il conduisait le troupeau sans menace et sans perfidie. Il n'y avait pas un mammouth qui eût l'humeur féroce d'Agou et de ses frères. Dès l'aube, lorsque le fleuve grisonnait devant l'Orient, les mammouths se levaient sur la terre humide. Le feu craquait, gorgé de pins ou de sycomores, de peupliers ou de tilleuls, et dans la profondeur sylvestre, sur la rive brumeuse, les bêtes savaient que la vie du monde avait reparu. Elle s'élargissait dans les nuées, elle y inscrivait le symbole de tout ce qu'elle faisait jaillir du néant des ténèbres, où sans elle, les porphyres, les quartz, les gneiss, les micas, les minerais, les gemmes, les marbres dormiraient, incolores et glaciales, de tout ce qu'elle créait de formes et de couleurs, embrassant la mer tumultueuse et en la volatilisant dans l'espace, en s'unissant à l'eau pour tisser les plantes et pour pétrir la chair des bêtes. Quand elle emplissait le ciel lourd d'automne, les mammouths barrissaient en levant leurs trompes et goûtaient cette jeunesse qui est dans le matin et qui fait oublier le soir. Ils se poursuivaient aux sinuosités des havres et jusqu'à la pointe des promontoires. Ils s'assemblaient en groupe, émus du plaisir simple et profond de se sentir les mêmes structures, les mêmes instincts, les mêmes gestes. Puis, sans hâte et sans peine, ils déterraient les racines, arrachaient les tiges fraîches, paissaient l'herbe, croquaient les châtaignes et les glands, dégustaient le mousseron, le bolet, la morille, la chanterelle et la truffe. Ils aimaient descendre tous ensemble à l'abreuvoir. Alors, leur peuple paraissait plus nombreux, leur masse plus impressionnante. Nao gravissait quelques tertres ou escaladait une roche pour les voir rouler vers la rive. Leur dos se succédait comme les vagues d'une crue, leurs pieds larges trouaient l'argile, leurs oreilles semblaient des chauves-souris géantes, toujours prêtes à s'envoler. Ils agitaient leurs trompes ainsi que des troncs de cytise couverts d'une mousse boueuse, et les défenses, par centaines, allongeaient leurs épieux lisses, étincelants et courbes. Le soir revenait. De nouveau, les nuages résumaient la splendeur des choses, la nuit carnivore s'abattait comme un brouillard violâtre et le feu se mettait à croître. Les oulamres lui servaient une nourriture copieuse. Il dévorait goulûment le bois de pin et les herbes sèches. Il haletait en rongeant le saule, son haleine devenait âcre en traversant les tiges et les feuilles humides. À mesure qu'il grandissait, son corps devenait plus clair, sa voix plus ronflante. Il séchait la terre froide et repoussait les ténèbres jusqu'à 1000 coudées. Tandis qu'il ajoutait aux viandes, aux châtaignes et aux racines une saveur pénétrante, le grand mammouth venait le regarder. Il s'y accoutumait. Il prenait plaisir à sa caresse et à son éclat. Il fixait sur lui des yeux pensifs et considérait les gestes de Nao, de Nam et de Gao, jetant des rameaux, des branches ou des gramènes dans ses gueules écarlates. Peut-être entrevoyait-il vaguement que la race des mammouths serait plus forte encore si elle pouvait s'en servir. Un soir, il vint plus près que de coutume, avançant la trompe et flairant les souffles qui s'élevaient de cette bête aux formes changeantes. Il s'arrêta, si immobile qu'il semblait un roc de schiste. Puis, saisissant une grosse branche, il la tint un moment suspendue et la jeta au milieu des flammes. Elle fit jaillir un vol d'étincelles, craqua, siffla, fuma et s'enflamma. Alors, secouant la tête avec un air de contentement, il vint poser sa trompe sur l'épaule de Nao, qui n'avait pas fait un geste. Saisi de stupeur et d'admiration, il crut que les mammouths savaient entretenir le feu, comme les hommes, et il se demanda pourquoi ils passaient leur nuit dans le froid et dans l'humidité. Depuis ce soir, le grand mammouth se rapprocha encore des nomades. Il aidait à ramasser la provision de bois, il alimentait le feu avec sagacité et prudence. Il rêvait dans la clarté cuivreuse, pourpre ou cramoisie, selon les phases de la flamme. Des notions neuves grossissaient dans son énorme crâne, qui établissait un lien mental entre lui et les oulamres. Il comprenait plusieurs paroles et beaucoup de gestes. Il savait lui-même se faire comprendre. En ce temps, les propos qu'échangeaient les hommes ne dépassaient pas les actions immédiates et très prochaines. La prévoyance des mammouths et leur connaissance des choses avaient atteint à leur apogée. Ainsi, leur chef réglait quelque temps à l'avance la mise en marche de la peuplade. Lorsqu'on entrait dans des territoires suspects ou énigmatiques, il se faisait précéder d'éclaireurs. Son expérience, guidée par une mémoire tenace, nourrie par la réflexion, avait de la variété et de l'envergure. Avec moins de précision que Nao, il n'en avait pas moins certaines conceptions sur les eaux, les plantes et les bêtes. Il entrevoyait la succession des périodes mornes et des périodes fertiles de l'année. Il discernait grossièrement le cours du soleil et ne le confondait pas avec celui de la lune. S'il avait parlé la langue des hommes, il n'eût guère paru plus fruste qu'Agou et ses frères. Il aurait même expérimenté certaines choses que le vieux Goud lui-même ne concevait point. Car si les hommes, depuis des milliers de siècles, accroissaient et affinaient leur entendement par tout ce qu'avaient palpé et transformé leurs mains, les mammouths développaient, à l'aide de leurs trompes ingénieuses, maintes notions qui demeuraient étrangères aux hommes. Mais réduit à quelques intonations et à quelques signes, le langage des colosses ne pouvait traduire tout ce qu'ils savaient. Les plus subtils restaient murés dans une solitude cérébrale. Aucune réflexion multiple ne pouvait se combiner avec une autre, ou se répandre par ce fleuve de la tradition orale qui, chez les hommes, emportait, rassemblait, variait intarissablement l'expérience, l'invention et les images. Néanmoins, la distance n'était pas encore infranchissable. Si la tradition des mammouths se bornait à l'imitation d'actes et de gestes millénaires, à la transmission de ruses et de tactiques, à une éducation simple sur l'usage des objets ou les devoirs envers la communauté et les individus, ils avaient l'avantage d'un instinct social plus ancien que celui des hommes et d'une longévité qui favorisait l'expérience individuelle. Car l'homme n'était pas construit pour vivre autant de saisons qu'un mammouth, et il était beaucoup plus sujet à périr accidentellement. Il ne pouvait pas compter sur une protection très efficace. La haine de ses semblables le menaçait non seulement au dehors, mais au sein de la horde même. Aussi existait-il moins d'hommes que de mammouths ayant reçu de la vie une leçon à la fois durable et nombreuse. Et Nao percevait chez son colossal compagnon, dont une longue existence laissait intacte la vigueur, la souplesse et la mémoire, dont l'œil, l'ouïe et l'odorat gardaient leur jeunesse, une intelligence qu'il jugeait supérieure à celle du vieux Goun, dont les souvenirs étaient vastes, mais dont les jointures devenaient raides, les mouvements lents et indécis, l'ouïe dure et la vue trouble. Cependant, les mammouths continuaient à descendre le long du grand fleuve, et déjà leur route s'éloignait de celle qui devait ramener les Oulams revers la Horde. Car le fleuve, qui d'abord suivait la route du nord, s'infléchissait à l'orient et allait bientôt remonter vers le sud. Nao s'inquiétait. À moins que le troupeau ne consentît à abandonner le voisinage des rives, il allait falloir le quitter. Et c'était une très douce habitude que de vivre parmi ses compagnons énormes et bénévoles. Après tant de sécurité, les solitudes semblaient plus féroces. Là-bas, sous l'automne pluvieux, dans la forêt des fauves, sur l'immense prairie pourrissante, ce serait jour et nuit l'embûche et le guet, la brutalité de l'élément et la perfidie du félin. Nao, un matin, s'arrêta devant le chef des mammouths et lui dit « Le fils du léopard a fait alliance avec la horde des mammouths. Son cœur est content avec eux. Il les suivrait pendant les saisons sans nombre, mais il doit revoir Gamla au bord du grand marécage. Sa route est au nord et vers l'occident. Pourquoi les mammouths ne quitteraient-ils pas les bords du fleuve ?» Il s'était appuyé contre une des défenses du mammouth. La bête, pressentant son trouble et la gravité de ses desseins, l'écoutait, immobile. Puis elle balança lentement sa tête pesante. Elle se remit en route pour guider le troupeau qui continuait à suivre la rive. Nao pensa que c'était la réponse du colosse. Il se dit « Les mammouths ont besoin des eaux. Les Oulams aussi préféreraient aller avec le fleuve. » La nécessité était devant lui. Il poussa un long soupir et appela ses compagnons. Puis, ayant vu disparaître la fin du troupeau, il monta sur un tertre. Il contemplait au loin le chef qui l'avait accueilli et sauvé d'examen. Sa poitrine était grosse. La douleur et la crainte l'habitaient. Et dirigeant les yeux, au nord-occident, sur la steppe et la brousse d'automne, il sentit sa faiblesse d'homme. Son cœur s'éleva, plein de tendresse, vers les mammouths et vers leur force.